Chers frères et sœurs, nous avons chanté tout à l'heure du fondement de tout ce que nous possédons, du fondement du fait que nous sommes ensemble, du fondement que nous avons l'Écriture devant les yeux et que nous aimons l'Écriture, que nous voulons non seulement l'aimer mais aussi écouter. Et l'Écriture nous parle du Seigneur Jésus, l'Écriture nous parle aussi de nous, parle aussi de l'Assemblée, nous parle aussi du Seigneur Jésus dans le sens qu'il est le grand modèle pour nous. Nous avons, dans notre prière, comme aussi dans notre cantique, dit que le Seigneur Jésus est devenu notre prochain. Dans l'exemple, dans l'histoire que le Seigneur Jésus a racontée, ce n'est pas seulement une similitude, mais c'est une vraie histoire, qu'il y avait donc un homme qui était tombé sous la puissance des brigands, et où il y a le vrai Samaritain qui était venu pour l'aider dans sa miséricorde. Nous avons un exemple du Seigneur Jésus, nous le savons, nous connaissons cela. Et cela nous touche aussi dans notre cœur. Peut-être que nous ne sommes pas tombés sous les brigands, mais nous étions tous perdus et nous avions tous besoin d'aide, d'une aide profonde qui était nécessaire pour nous sauver de notre état de pécheur, notre état de perdition. Alors le Seigneur est venu pour cela, mais il est venu aussi pour nous montrer son amour, pour nous montrer comment, et maintenant je vais dans une autre direction, comment il aimerait nous voir, nous. Il nous a donné un exemple, et il veut aussi que nous fassions, nous ayons aussi des attitudes comme le Seigneur les a eues. Je pense à quelque chose dans l'Écriture tout à fait pratique, et j'aimerais bien lire quelques versets de l'épître de l'apôtre Paul à Philémon, plus encore quelques versets de l'épître aux Colossiens, et je vais dire aussi pourquoi. Juste quelques versets de l'épître à Philémon. Je commence au premier verset. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée, à Philémon, le bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, et à la sœur Apphi, et à Archippe, notre compagnon d'armes, et à l'assemblée qui se réunit dans ta maison. Grâce et paix à vous de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu, faisant toujours mention de toi dans mes prières, apprenant l'amour et la foi que tu as envers le Seigneur Jésus et pour tous les saints, en sorte que ta communion dans la foi opère en reconnaissant tout le bien qui est en nous à l'égard du Christ Jésus. Car nous avons une grande joie et une grande consolation dans ton amour, parce que les entrailles des saints sont rafraîchies par toi, frère. Je dirai d'abord juste ici, et j'ajoute encore quelques versets comme je dis de l'Épître aux Colossiens, au chapitre 3. Colossiens 3, à partir du verset 9. Ne mentez point l'un à l'autre, ayant dépouillé le vieil homme avec ses actions et ayant revêtu le nouvel homme qui est renouvelé en connaissance selon l'image de celui qui l'a créé, où il n'y a pas grec ni juif, circoncision et incirconcision, barbare, scythe, esclave, homme libre, mais où Christ est tout en tous et en tous. Revêtez-vous donc comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de longanimité, vous supportant l'un l'autre et vous pardonnant les uns aux autres et si l'un a un sujet de plainte contre un autre. Comme aussi le Christ vous a pardonné, vous aussi faites de même. Et par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et que la paix du Christ, à laquelle aussi vous avez été appelés à un seul corps, préside dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Je ne vais certainement pas parler de tous les détails dans ces versets, mais quelques-uns sont très importants, il me semble, pour comprendre l'épître de l'apôtre à Philémon. L'épître à Philémon est une lettre très spéciale. Il y a 6 lettres dans l'Écriture qui ont été écrites à des personnes individuelles. Nous les connaissons, les 2 épîtres à Timothée, l'épître à Tite, l'épître à Philémon, justement. Puis encore 2 épîtres de l'apôtre Jean envers, premièrement, une dame élue et Gaius, on dit, je crois, Gaius, le bien-aimé de l'apôtre. Voilà, dans ces épîtres, l'apôtre, premièrement l'apôtre Paul, a écrit des choses qui sont en accord direct avec la vérité de l'Assemblée. Comment on vit dans la maison de Dieu, nous le savons, premier épître à Timothée. Puis aussi, comment agir quand il y a beaucoup de mal qui arrive et qui concerne aussi l'Assemblée, etc. Je ne vais pas présenter tout ça, mais nous le connaissons. Mais il y a une lettre, une épître, où il n'y a pas une chose, disons, qui est vraie pour tout le monde, mais aussi c'est un cas privé. C'est une lettre privée, dans le sens que, premièrement, l'apôtre Paul écrit à un frère qu'il appelle son bien-aimé, et encore à ça, je pense, à sa fils et sa femme, plus encore à d'autres personnes encore, mais pour un cas tout spécial, un cas privé. Mais l'Esprit de Dieu a trouvé bon de nous dire aussi quelque chose quant à des cas privés, quant à des cas qui nous concernent, nous personnellement. Et ça, c'est le cas pour Philémon. Il y a quelque chose qui le regarde tout personnellement. Mais là, l'Esprit de Dieu nous montre aussi que c'est ce qui est personnel a aussi un impact sur d'autres. C'est pour cela que nous lisons encore d'autres personnes. Je pense qu'on va maintenant parler un peu de ces quelques versets que nous avons lus pour voir comment l'apôtre Paul est amené par l'Esprit de Dieu à s'adresser à Philémon. Philémon est un homme qui semble être assez riche. Je pense que vous connaissez l'épître à Philémon. Et vous savez que le grand objectif de l'apôtre est la personne d'un certain Onésime, qui était un esclave, qui s'était enfui de Philémon, et qui maintenant revient, renvoyé même par l'apôtre, et l'apôtre parle de lui au cœur de Philémon. Je pense que tout cela, nous le savons, parce que nous avons tous déjà lu, je pense, cet épître à Philémon. Alors, comment l'apôtre commence ? Qu'est-ce qu'il dit ? L'apôtre Paul, il était, à ce moment-là, quand il écrit cette lettre, il était en prison. C'est pour ça qu'il dit d'ailleurs « prisonnier de Jésus-Christ ». C'était à Rome qu'il était en prison, mais il avait la possibilité d'écrire des lettres. D'ailleurs, plusieurs lettres ont été écrites par l'apôtre Paul, là, à Rome. Et vous savez, ce n'est pas seulement le service de l'apôtre dans ses voyages qui nous sont rapportés, en partie en tout cas, dans les actes, mais son service du Dieu l'a amené dans la tranquillité, dans une certaine solitude, pour l'employer, pour écrire encore des choses. Et c'est là, quand l'apôtre Paul était en prison, que le Seigneur, paraît-il, en tout cas c'est ce que nous voyons, ouvre son cœur envers l'apôtre Paul pour lui faire comprendre des choses magnifiques. Épître aux Éphésiens. Une épître avec une profondeur de pensée concernant le Seigneur Jésus, d'une premièrement, mais aussi la liaison du Seigneur Jésus avec ceux qui ont cru en lui, qui forment maintenant son corps, même comme il est dit dans l'Épître aux Éphésiens. Des profondes pensées qui sont donc décrites dans cet Épître aux Éphésiens. L'Épître aux Colossiens, la même chose, encore quelque chose, pas d'une autre vue, où c'est très important pour nous, ces lettres que nous avons donc aussi sous nos yeux aujourd'hui. Et il y a aussi cet épître à Philémon que l'apôtre a dû écrire dans cette prison. Et il était apôtre, non? Oui, il était apôtre. Paul, apôtre? Eh bien non. Il ne se présente pas ici comme apôtre. Et pourtant, il était. Il avait toujours cette autorité, parce qu'un apôtre avait de l'autorité reçue par le Seigneur. Et cette autorité, nous le voyons aussi dans cet épître, mais pour le début. Nous voyons cette autorité seulement au verset 8, je pense, oui. Il écrit, c'est pourquoi, tout en ayant une grande liberté en Christ, de te commander ce qui convient, etc. De commander, qui pourrait commander? L'apôtre avait cette autorité reçue par le Seigneur de commander quelque chose. Mais il dit ici, je ne vais pas commander. Je t'écris maintenant pas en apôtre, bien qu'il y ait toujours, mais je t'écris maintenant je souligne une autre chose. Prisonnier de Jésus-Christ. Écoute, Philémon, je suis prisonnier. Je suis en prison. Mais je ne suis pas en prison à cause d'un crime, à cause de quelque chose qui soit vraiment grave pour mettre quelqu'un en prison. Mais il était prisonnier de Jésus-Christ. Et nous y trouvons différentes pensées, il me semble. Premièrement, il dit à Philémon, tu comprends, je souffre, je suis en souffrance. Et pour qui? Eh oui, pour le Seigneur, pour Jésus-Christ. Deuxièmement, il dit par là aussi, moi je suis quelqu'un qui est en prison à cause justement du fait que je parle du Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus, Philémon, c'est notre Seigneur, tu le connais, c'est pour lui que je suis ici. Et quand je t'écris, c'est dans ce niveau d'être prisonnier et d'être lié avec le Seigneur, mais aussi avec tous ceux qui appartiennent au Seigneur. Il ajoute encore, et le frère Timothée. Bon, Timothée est un jeune frère, à l'époque en tout cas, il est un jeune frère, mais il le met à côté, lui, parce qu'il veut dire quelque chose qui doit être prouvé, qui doit trouver un témoignage, être témoigné. C'est très souvent que l'apôtre le fait comme ça. Il écrit une lettre, et la lettre est importante parce que c'est l'apôtre, mais il ajoute quand même encore un témoin, un autre, un deuxième frère. Et c'est pour souligner aussi que ce qu'il dit est vraiment est juste, est vrai. Nous savons par l'Écriture que le témoignage de deux ou trois témoins est juste. Que ce n'est pas un seul qui écrit quelque chose. Et l'apôtre se soumet aussi à ses pensées de l'Écriture qui se trouve déjà dans l'Ancien Testament. Timothée, il l'appelle simplement le frère. Le frère Timothée. Toi, tu es frère. Timothée est un frère. Nous sommes frères. Quand j'ai commencé à parler ici, qu'est-ce que j'ai dit? Cher frère. Cher frère. Chers frères et sœurs, et c'est vrai, parce que nous sommes liés, quand nous connaissons le Seigneur Jésus comme notre Sauveur, nous sommes des frères et des sœurs, c'est-à-dire nous sommes en parenté entre nous. Nous avons le même Père, et bien nous avons la même vie, voilà. Ce qui est important, un frère a la même vie que son frère, parce qu'il a le même père, la même mère aussi. Les frères Timothée, un Philémon, à Philémon, déjà les noms nous parlent un peu. Philémon veut dire celui qui aime. Oui, en allemand, on a encore une autre expression qui me semble être assez adaptée. Nous avons l'expression aimer. Lieben, et nous avons encore une autre expression qui est très proche, mais qui ne dit pas tout à fait la même chose, liebhaben, avoir de l'affection pour quelqu'un. Peut-être je peux expliquer ça un peu comme ça. Et c'est ça le mot, c'est philéo, c'est le grec, et avoir de l'affection pour quelqu'un, de le baiser, etc. De montrer de l'amour, montrer de l'affection, voilà. C'était ça. Et on ne sait pas très bien, est-ce que c'était lui qui montrait ça ou est-ce que c'est lui qui recevait ça, cette affection. Les deux sont possibles. Mais alors, ensuite, l'apôtre ajoute encore le bien-aimé. Nous venons de lire aussi un court passage dans l'Épître aux Éphésiens. Vous vous rappelez au verset, je pense que c'était le verset 12. Et Colossiens, excusez-moi. Oui. Colossiens, au verset 12. Revêtez-vous donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés. Saints et bien-aimés. Voilà, les frères sont des bien-aimés. Et l'apôtre nomme alors Philémon tout de suite je t'écris à toi, Philémon, le bien-aimé. Nous savons ce que c'est, le bien-aimé. Et ici, le mot, le grec, est un autre mot. Ce n'est pas le mot philio, c'est le mot agapao. Agapé, agapao, c'est un autre mot qui parle de l'amour, qui parle de l'amour divin. Agapao est vraiment et d'ailleurs dans la littérature grecque, ce mot n'apparaît pas beaucoup, parce que cela, agapé, n'existe pas vraiment entre les hommes, parce que c'est un amour qui est là, sans avoir besoin d'un motif dans l'autre. C'est un amour qui aime parce qu'il aime. C'est un amour qui vient de Dieu. C'est seul Dieu qui avait cet amour. Parce qu'il n'a pas trouvé de motif en nous qui nous ont fait aimer par Dieu. C'est simplement la grâce, c'est parce que lui, il voulait aimer. Il voulait aimer des hommes, et c'est pour ça qu'il a envoyé son fils. Et ça vient uniquement de sa part. Il n'y a rien en nous qui aurait amené Dieu à nous aimer. Au contraire, nous étions des objets du courroux de Dieu. À juste titre, nous étions des objets de courroux à cause du péché, à cause de notre attitude de rébellion contre Dieu. Peut-être une rébellion qui n'était pas tout à fait visible. Chez certaines personnes, c'est visible, peut-être pas dans tout le monde, mais déjà le fait d'être négligent envers Dieu, d'être indifférent à ce que Dieu fait, etc., tout cela, c'est déjà une sorte de haine. Eh bien, il était le bien-aimé de Dieu, et le bien-aimé aussi, donc aussi pour les autres, aussi pour lui, pour l'apôtre. Et là, on pourrait peut-être, et c'est pour ça que je trouve que c'est très pratique, ça pourrait se demander vraiment, est-ce que nous regardons ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus, qui sont aussi des enfants de Dieu, est-ce que ce sont des bien-aimés pour nous? Est-ce que nous avons cette attitude? Nous voyons quelqu'un, nous savons que c'est un enfant de Dieu. Est-ce qu'il y a vraiment de l'amour envers cette personne? Parce que nous avons le même Père. Ou est-ce que nous, quand nous le voyons, parce qu'il y avait quelque chose dans son comportement, dans son caractère, peut-être qui ne nous plaît pas, alors nous passons à côté. Nous changeons peut-être même notre foi. Eh bien non. Et c'est peut-être quelqu'un qui nous a fait du mal. Et pourtant, quand c'est un enfant de Dieu, c'est un bien-aimé. C'est un bien-aimé du Seigneur. Comme moi, je le suis, par grâce. Alors, est-ce que je peux être indifférent envers que c'est quelqu'un qui est un bien-aimé du Seigneur? Vous voyez, ces petits détails nous parlent déjà, parlent à nos cœurs. Quelle est mon attitude à moi envers un frère, envers une sœur, c'est-à-dire une personne qui est aimée par le Seigneur? Ensuite, nous retrouvons notre compagnon d'œuvre. Alors, c'était encore quelqu'un qui a travaillé avec l'apôtre. Un compagnon, un collaborateur, on pourrait dire aussi un collaborateur. Dans quel sens collaborateur? Eh bien, nous ne savons pas si l'apôtre avait vraiment bien connu les mots, peut-être oui, peut-être il avait entendu, parce qu'il est clair, oui, il avait entendu parler du service de Philémon. Et il savait bien, c'est un service qui peut-être était même un service par la suite à un service que l'apôtre avait fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Nous avons aussi, quelquefois, nous avons un service à faire. Et alors, notre service accompli, il y a peut-être un autre qui a encore un service à continuer, à faire. Un évangéliste, il fait un service d'évangile. Il a des âmes qui sont amenées à la foi au Seigneur Jésus. Et alors maintenant, l'évangéliste ne peut pas faire tout le travail. Il cherchera certainement à conduire cette âme encore plus vers dans la vérité. Mais il y en a d'autres. Il les recommande peut-être même à une assemblée ou à des frères et sœurs pour s'en occuper de plus. Et ce sont des collaborateurs aussi de ce frère évangéliste. Et c'est la même chose pour l'apôtre aussi. Bien qu'il y avait aussi des collaborateurs qui étaient près de lui, qui travaillaient directement avec lui. Un compagnon d'œuvre. Très belle chose d'être compagnon d'un serviteur du Seigneur et d'être soi-même aussi un serviteur du Seigneur. Voilà encore un côté pratique. Et à la sœur Apfi. Je ne sais pas si vous dites Apfi ou Apfi, je ne sais pas. Apfi, oui. Alors, une sœur, c'est la première fois et la seule fois où dans les épîtres qui ont écrit, des sœurs sont directement adressées. Nous trouvons quelquefois des noms de sœurs, par exemple en Romains 16, il y a beaucoup de sœurs qui sont mentionnées. Mais adressées de nom, même la deuxième épître de Jean, nous trouvons une dame élue, nous ne savons pas comment elle s'appelle. Mais là, il dit même le mot, même le nom. Et il paraît bien que c'est la femme de Philémon. Et pourquoi est-ce qu'il y a une épître qui s'adresse encore à une femme? Est-ce que ce n'est pas un peu étonnant? En général, c'est les frères qui, quand il s'agit de service, c'est les frères, bien sûr. Tout ce qui est public, alors travail public, en public, c'est les frères, ce n'est pas les femmes. Les femmes ne sont pas appelées à faire un service public, n'est-ce pas? Mais là, un service, il paraît que cette femme, la fille, a aussi un service. Quel service? Nous l'apprenons après. Puisque nous savons qu'il s'agit de l'affaire d'un homme qui était dans la maison de Philémon. Et dans la maison de Philémon, il y avait aussi sa femme qui avait de l'importance. Parce que pour le ménage, pour la maison, elle a une place très importante. Et nous le savons, et nous l'apprenons par ici aussi que c'est important. Dans cette situation, Onésime, ce esclave qui existait à l'époque, il y avait encore des esclaves et des maîtres. Philémon était un maître et Onésime était un esclave, mais il était dans la maison, travaillait pour la maison. Alors la femme était concernée directement. Peut-être elle avait même besoin de cet esclave. Dans le travail qu'il faisait. Donc, elle est concernée directement. Et d'ailleurs, nous savons bien aussi, nous apprenons cela, dans les maisons, il ne faut pas oublier qu'il y a des sœurs, des femmes, des sœurs qui ont une place importante, soit pour la maison, ce n'est pas la place d'être chef de la maison, ça c'est le mari. Mais avoir une place très importante dans l'atmosphère de la maison, dans ce qui se fait dans la maison, dans ce que font les membres de la famille, elle a un très important rôle dans la maison. Un rôle qui n'est pas, je le répète, qui n'est pas un rôle qui est en public, mais dans la famille. Et c'est aussi quelque chose que nous apprenons par là. D'ailleurs, pour nous, les frères, nous avons aussi besoin de voir ça et d'apprécier ça, d'avoir vraiment un égard aussi envers celles qui ont une place dans la maison, selon la pensée du Seigneur. Afi était une croyante, c'est clair. C'est bien clair, elle est appelée la sœur Afi. Et puis, ça continue encore, et Archip, notre compagnon d'armes, Archip. C'est encore un nom qui est, nous le trouvons d'ailleurs aussi dans l'épître aux Colossiens. Et ensuite, oui, il est compagnon d'armes. En allemand, nous avons une autre expression, une expression où le mot combat se trouve, un combattant, un co-combattant, on pourrait peut-être dire, j'espère que c'est compréhensible. Alors, qui combattait en quoi? Nous avons différents combats, le combat de l'Évangile, nous le trouvons dans les Philippiens. Il y a aussi le combat pour la vérité, le bon combat dont l'apôtre Paul peut écrire dans le deuxième épître à Timothée. J'ai achevé le bon combat pour le Seigneur, être là pour lui et défendre la vérité du Seigneur Jésus. Voilà le bon combat. Alors c'était donc quelqu'un qui était là aussi, qui était prêt à employer l'arme utile. Quel est le compagnon d'armes? Quelle arme est-ce qu'il a employé? Oui, c'est la parole de Dieu. C'est celui de la parole de Dieu qu'il a parlé, ce que Dieu voulait, la vérité, présenter la vérité et défendre la vérité. Voilà ce qui caractérisait cet homme archip. Et nous retrouvons aussi ce nom dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 4. Là, l'apôtre écrit aux Colossiens, dit à Archip qu'il regarde le service qu'il a reçu, afin qu'il l'accomplisse dans le Seigneur. Voilà. Alors, même un compagnon d'armes a besoin aussi d'une exhortation, d'un encouragement peut-être. Et d'ailleurs, nous tous, nous avons besoin d'encouragement. Nous pouvons nous décourager facilement, aussi même dans le service pour le Seigneur. Et si nous regardons vers lui, quand nous voyons comment lui, il a accompli son service, avec combien, tant de difficultés, de rébellion qui étaient contre lui, c'est peu de choses que nous devons peut-être souffrir. Soyons aussi des combattants pour le Seigneur et pour sa vérité. Archip l'était certainement. Et il avait besoin d'encouragement. Il l'a reçu aussi. Et ensuite, et à l'assemblée qui se réunit dans ta maison. Ça, c'est peut-être le plus étonnant. Parce que il y a Philémon, chef de la maison, il y a Afi, certainement sa femme, il y a Archip, ou bien quelqu'un qui habitait aussi dans sa maison, peut-être même son fils, nous ne le savons pas, ce n'est pas très clair, mais en tout cas c'était des personnes dans la maison. Et maintenant, l'assemblée qui se réunit en ta maison, elle aussi est adressée par cet épître. Et on se demande pourquoi. C'était donc, comme nous avons dit, c'est une affaire privée, non? On pourrait dire, qu'est-ce que ça ne regarde pas l'Assemblée? Pourquoi l'Assemblée? Nous pensons peut-être de même. Ce sont des choses privées que personne n'y entre, en le tenant caché. Est-ce qu'on peut tout cacher vraiment une chose? Est-ce qu'un frère, une sœur, dans une assemblée, peut cacher quelque chose? Oh, nous cherchons peut-être quelquefois. Mais alors, la lumière est de Dieu. Et peut-être, tout d'un coup, il y a la lumière qui touche une chose et met à ouvert une chose. Et ici, nous pouvons certainement penser que l'Assemblée était au courant du fait que Onésime s'était enfui. C'était une affaire d'abord de la maison. Mais comme encore il y a même encore une liaison, parce que l'Assemblée se réunissait dans cette maison, on comprend bien que l'Assemblée était au courant, parce qu'elle remarquait bien que cette personne manquait maintenant, on n'était plus là. Et pourquoi Onésime, où est-il? Pourquoi Onésime n'est-il pas venu? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas là? Voilà des questions qui se sont certainement posées. Et alors, et oui, ils sont étoffés. Pourquoi? Ah, et maintenant des suppositions. Ah non, pourquoi est-ce qu'il s'est enfui? Ah, il a été maltraité peut-être? Ah, ou est-ce que peut-être il a fait quelque chose de mal? L'apôtre d'ailleurs en parle aussi à un certain moment. Peut-être il a volé quelque chose et il s'en est allé pour ne pas être pris. Voilà des suppositions qui facilement se créent autour d'un cas, même d'un cas privé. Mais attention, Dieu met tout en lumière. Et maintenant, c'est même aussi écrit à l'Assemblée. Et peut-être encore une deuxième raison pourquoi c'est aussi écrit à l'Assemblée. Eh bien, nous savons par l'Épître que Onésime est devenu un homme qui s'est converti, un homme qui avait reçu le pardon de la part de Dieu, et que l'apôtre Paul aussi peut parler de lui comme d'un homme vraiment fidèle, un bon et utile serviteur de l'apôtre, eh bien, maintenant, il s'agissait aussi pour l'Assemblée de le recevoir. Il est renvoyé, il viendra, et d'ailleurs encore, il vient même avec cette lettre, avec Tychique, cet homme qui a été envoyé, l'envoyé de l'apôtre, et avec Onésime. Les deux étaient venus aussi. Est-ce qu'ils étaient venus déjà ensemble? Est-ce que Philémon a vu Onésime déjà? Est-ce qu'il l'a vu déjà quand il arrive? Ah, tu es là! Et peut-être un peu étonné, et peut-être avec un peu de recul, nous ne le savons pas. Mais avec cette lettre, la chose est devenue claire. Et l'apôtre a vraiment à cœur de mettre la chose au clair aussi envers Philémon, le maître d'Onésime. Voilà donc, l'Assemblée est mise au courant aussi. Et ça ne nous étonne plus. Nous comprenons maintenant et nous devons aussi en tirer notre leçon. Parce que ce sont des cas, pas de la même façon, de la même manière, mais il y a des cas comme ça aussi parmi les croyants. Et ne faisons pas de suppositions, ne supposons pas quelque chose sans le savoir. Mais quand il y a quelque chose, c'est aussi être clair. Ça ne veut pas dire que tout ce qui concerne, disons, un foyer doit être mis au public. En public, vous me comprenez quand je dis ça. Ce n'est pas ça. Mais quand il y a quelque chose qui touche vraiment l'Assemblée, comme c'est le cas ici, nous ne devons pas hésiter aussi à en parler. Être ouvert aussi envers. Ça, c'est aussi d'ailleurs une sorte d'affection fraternelle, qu'on soit ouvert, qu'on ne cache pas. Oui. Et maintenant vient encore les salutations, grâce et paix à vous de la part de notre Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. C'est une salutation que nous trouvons très souvent. Eh bien, ici aussi, l'apôtre l'ajoute. Mais j'ajoute encore une petite pensée. L'apôtre avait écrit aussi à l'Assemblée de Colosse. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas écrit déjà dans cet épître aux Colossiens? Écoutez, il y a aussi, il y a Philémon, il y a encore une affaire dans chez vous, il y a cette affaire de la maison de Philémon, il y a encore cet Onésime, etc. Onésime va revenir et maintenant, papa, etc. Vous me comprenez? Non, l'apôtre ne le fait pas. Parce que ce n'est pas directement pour l'Assemblée, mais l'apôtre voit, c'est d'abord le côté privé, mais le côté privé qui touche aussi les autres, qui touche maintenant l'Assemblée. Et c'est avec beaucoup de sagesse que l'Esprit de Dieu conduit l'apôtre à écrire comme cela une lettre à Philémon et à sa famille. Voilà, et maintenant, je rends grâce à mon Dieu, faisant toujours mention de toi dans mes prières. Oui. Courte pensée. Je te connais. J'ai entendu parler de toi. Je rends grâce. Je parle à toi, à Dieu, de toi, à Dieu. Dans ma prière, il a parlé de ce frère. C'est aussi un exemple pour nous. Non seulement dans le cas dans un tel cas où quelque chose de positif, comme c'est le cas ici, du positif pouvait être dit, mais aussi prier pour pour le frère faire mention des difficultés, peut-être d'un cas spécial que nous savons. Parlons au Seigneur, parlons à notre Dieu. Quand nous prions pour un frère, pour une sœur, nous ne pouvons plus être irrités contre elle, contre la personne. Quand nous prions pour un frère, nous ne pouvons plus, il n'y a plus de litige, on peut dire. Oui, on connaissait son nom, oui. Il n'y a plus ça. Il n'y a plus des... Mais quand nous prions les uns pour les autres, est-ce que le Seigneur ne pourra pas nous donner une unanimité dans cet amour fraternel? Si nous pensons à tant de choses, où nous disons « Ah, avec lui, je ne parle plus. Oh, je ne vais pas le saluer. » Je ne vais pas saluer quelqu'un qui est un enfant de Dieu, qui est un bien-aimé. Qu'est-ce que nous faisons au Seigneur quand nous pensons comme cela? L'apôtre montre aussi, j'ai prié pour l'un et pour l'autre. Il a prié tout le temps aussi pour Onésime, il a prié pour Philémon aussi, et pour toute la situation. Faisons la même chose. Et il peut encore dire, j'ai appris quelque chose et c'est pour ça que je l'embrasse. Je sais d'où ça vient. Il y a l'amour et la foi. L'amour et la foi que tu as envers le Seigneur Jésus et pour tous les saints. L'amour, d'ailleurs, c'est une construction qui est un peu difficile. Je sais que les jeunes me disent souvent, mais qu'est-ce que ça veut dire? L'amour pour la foi envers tous les frères. C'est une construction grammaticale de l'ancien grec qui est possible. Il faut bien regarder ce qui va ensemble. Vous comprenez quand je dis ça? D'ailleurs, nous trouvons cette expression, mais dans une autre structure grammaticale, aussi dans l'Épître aux Colossiens. Là aussi, l'apôtre dit des Colossiens qu'il était heureux de leur amour pour le Seigneur, de la foi au Seigneur et de leur amour pour tous les saints. Mais on pourrait aussi penser la foi a différentes significations. La foi au Seigneur Jésus, bien sûr, nous comprenons ça, c'est par la foi que nous sommes sauvés. Par la foi au Seigneur Jésus, en son œuvre de la croix, nous sommes sauvés, ça c'est bien clair. Mais la foi, je peux aussi avoir foi en quelqu'un, en une personne. Et il me semble que cela est mis aussi dans cette phrase, c'est pour cela qu'il y a cette structure qui prend les deux ensemble. L'amour pour le Seigneur et l'amour pour tous les saints. D'accord, on comprend vite. La foi envers le Seigneur, d'accord, la foi envers les croyants. Ah, et bien oui, quand nous comprenons que la foi, c'est aussi ce qu'un prête foi, on peut dire ça, prête foi dans une personne, dans un frère. Ce qu'il dit, c'est vrai. Moi, je suis convaincu que ce qu'il dit est vrai. Moi, je prête foi. Et l'autre le remarque aussi. Le frère le remarque aussi. On me croit. Et ça, c'est quelque chose d'important aussi parmi frères et sœurs. Donc, les deux choses sont nécessaires et sont ici mises ensemble. C'est ce que l'apôtre dit de Philémon, et c'est aussi c'est certainement un modèle, en sorte que, oui, bien sûr, il y a encore d'autres petits détails, tous les saints, en sorte que ta communion dans la foi opère en reconnaissant tout le bien qui est en nous. La foi, la communion de foi. La communion, c'est quelque chose d'important entre frères et sœurs. La communion qui est caractérisée par la foi. La communion, maintenant, est caractérisée par la foi de, parce que les deux sont possibles, la foi de Philémon. Et cette foi amène aussi à reconnaître, à comprendre, à reconnaître tous les biens qui est en nous, il est dit, qui est en nous à l'égard de Christ Jésus. De reconnaître tous les biens qui est en nous. Il y a du bien qui est en nous. Je sais qu'en moi, c'est-à-dire en mon, ma chair, il n'y a pas de bien. Quel bien était ici? Eh bien là, nous avons la liaison aussi avec l'Épître aux Colossiens, le nouvel homme. Le nouvel homme. Dans le nouvel homme, il y a du bien dans le nouvel homme. Tout ce que le Seigneur Jésus était comme modèle. Le modèle du Seigneur Jésus, c'est aussi maintenant tout le bien dans les croyants. Quand ils vivent vraiment selon le nouvel homme, dans cette nouvelle nature, avec cette nouvelle vie. Parce que la nouvelle vie ne pêche pas. Quand il y a péché, quand il y a quelque chose de mal en nous, nous savons bien d'où ça vient. Quand il s'agit de notre intérieur, c'est la chair qui fait ça et qui est mal conduit par celui qui est l'ennemi de Dieu. Voilà. Quand il y a péché, c'est toujours ça. C'est jamais le nouvel homme. Le nouvel homme ne pêche pas. Le nouvel homme est aussi conduit par l'Esprit Saint. Voilà, c'est ce que nous devons vraiment comprendre et tenir ferme. Et c'est pour ça que nous avons besoin tellement, souvent aussi, de juger notre chair. On comprend certainement. C'est vraiment dire, oui, en moi, il n'y a rien de bien. Oh Dieu, je le confesse devant toi. Et il y a telle chose et telle chose. Aussi des choses qu'on excuse quelquefois avec le caractère. Oui, c'est mon caractère. Il faut que les frères comprennent que c'est mon caractère. Eh bien non, ce n'est pas mon caractère. Ce n'est pas ça une excuse valable devant le Seigneur. Puisque le Seigneur a donné une nouvelle vie et dans la nouvelle vie, on vit autrement. Il y a du bien. Et le bien, c'est différentes choses. C'est premièrement l'obéissance au Seigneur. C'est l'amour pour le Seigneur, c'est l'amour pour les siens, c'est l'amour pour la parole de Dieu. C'est aussi le fait de se juger soi-même. C'est aussi un bien. Et toutes différentes choses qui ont le bien qui est en nous, comme il est dit ici, dans le Christ Jésus. C'est-à-dire en lui, nous ne sommes pas seulement capables, mais que cela se voit dans notre nouvel homme. Je comprends comme ça. Et puis, il ajoute encore au verset 7, « Car nous avons une grande joie et une grande consolation dans ton amour. » Dans ton amour. J'ai parlé de ce nouvel homme. Nous avons lu tout à l'heure aussi ces quelques versets dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3. Revêtez-vous, il y a de l'amour, il y a la miséricorde, il y a la longanimité, il y a le pardon mutuel, quand l'un a quelque chose contre l'autre. Ça, c'est la nouvelle nature, le nouvel homme qui est prêt à pardonner. Et tous les caractères qui sont mentionnés dans ce chapitre-là, nous les trouvons d'ailleurs ici, incorporés dans l'attitude, dans le comportement de Philémon que l'apôtre souligne ici. Et encore aussi le verset 11, je pense, ou 10, c'était 11 ou 10. Juste pour l'ajouter, c'était le verset 9, il est parlé de ayant dépouillé le vieil homme avec ses actions et ayant revêtu le nouvel homme, donc je n'ai pas pas, où il n'y a pas grec et juif. Ça, nous connaissons déjà. C'est ce que déjà dans l'Épître aux Éphésiens, nous comprenons ça. Le mur mitoyen a été détruit, n'est-ce pas? Est enlevé. Il n'y a plus de différence entre juif et grec qui a de l'importance. Circoncision et intercirconcision, barbare, scythe, et maintenant, esclave, homme libre. Ah, finalement, tu as lu aussi, vous avez lu cette épître que j'ai écrit aussi aux Colossiens. Est-ce que c'était déjà lu? Ça devait être lu. Et pour Philémon, c'était clair. Oh là, c'est exactement ce que l'apôtre me demandait aussi. Je comprends, il n'y a plus cette différence. Ni esclave, c'est maintenant un frère, c'est plus un esclave et moi je suis en libre. Et l'amour dont nous avons parlé ici, c'est une grande joie, une grande consolation dans ton amour, parce que les entrailles des saints sont rafraîchies par toi, frère. Les entrailles, c'est l'intérieur. C'est le côté intérieur, spirituel de l'homme, rafraîchi. Dans le mot rafraîchi, c'est le même mot que nous trouvons en hébreu. D'ailleurs, dans le psaume 23, il restaure mon âme. Restaurer, c'est aussi rafraîchir. C'est d'ailleurs le même mot, la même signification. Dans les entrailles des saints ont été rafraîchies par ton amour. Notre amour pour les croyants, notre amour pour les frères et sœurs, ça rafraîchit, encourage, rafraîchit, restaure même les intérieurs, les âmes de nos frères et sœurs. Et quand nous pensons au fait de restaurer, nous comprenons bien aussi, quand il y a quelque chose qui était mal, ou il y avait peut-être une chute, mais quand il y avait maintenant, après confession et pardon, maintenant il y a cet amour qui se montre, qui se manifeste, c'est un rafraîchissement aussi pour l'âme qui a besoin d'être restaurée. Voilà ce que fait l'amour. C'est très intéressant que l'apôtre le dit dans ce sens-là. Et il parle de beaucoup d'âmes ont été restaurées, ont été rafraîchies sont rafraîchis par toi, frère. C'est le début de cette épître. Et nous comprenons maintenant, je crois, aussi dans quelle atmosphère Philémon reçoit maintenant atmosphère intérieure. Vous me comprenez, j'espère, atmosphère intérieure. Philémon reçoit maintenant Onésime. Voilà, l'esclave qui était désobéissant, qui était infidèle. Et maintenant l'apôtre. Et l'apôtre continue encore en lui parlant de ses sentiments à lui. Et ça, c'est très touchant que de voir comment il se présente, le vieux, celui qui est âgé, celui qui est maintenant en prison. Pense à tout cela. Et ça t'aidera encore, en plus, d'être pardonnant et de vraiment restaurer aussi la situation dans laquelle il se trouvait, le maître et son esclave. Et maintenant, l'apôtre dit même encore, et alors ce sera pour toi seulement un bon esclave. Ça sera un fidèle esclave, mais plus que ça. Philémon, ce sera un frère. Un frère, et donc un bien-aimé. Ce n'est plus la pensée, tu es mon esclave, mais c'est la pensée, tu es mon bien-aimé. Voilà les relations que la parole nous présente, des relations entre frères et sœurs dans les différentes situations. Aussi, il n'y a plus de rang social qui joue un rôle Vous me comprenez quand je dis ça, tout cela ne joue plus un rôle pour le nouvel homme lié au Seigneur Jésus lui-même et le voyant comme le grand modèle pour notre vie et pour notre vie non seulement dimanche, pour notre vie de tous les jours, notre vie journalière dans la famille, avec des amis, dans l'assemblée. C'est surtout ce côté-là que nous trouvons ici dans cet épître. Et ça nous rafraîchit aussi de voir ça. Je me rappelle qu'un jour, c'était un vieux frère qui était venu, c'était à Düsseldorf, où j'étais enfant, jeune homme. Il avait parlé un tout autre paragraphe. Et après ça, c'est un frère qui s'est levé et qui a lu ce dernier verset. Parce que les entrailles des saints sont rafraîchies par toi, frère. Il a dit encore merci. C'est aussi quelque chose, je crois, que nous devons apprendre, peut-être apprendre, quand il y a quelqu'un, et je ne parle pas de moi, vous comprenez, je pense, oui, mais quand il y a aussi un service qui a été fait, aussi de reconnaître ça. Nous sommes très souvent et très vite à critiquer ceci et cela, et c'est certainement juste même, mais ce n'est pas rafraîchissant, et ce n'est pas restaurant, et ce n'est pas édifiant. Mais quand on met peut-être sa main sur l'épaule du jeune frère qui avait dit quelque chose, qui a aidé, qui a réfléchi, qui a été heureux, alors ça encourage aussi le serviteur du Seigneur. Pensons-y aussi.
Yeah.